France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le mardi 5 janvier. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la Grande-Bretagne reconfinée jusqu'à la mi-février face à l'explosion des contaminations dues aux nouveaux variants du coronavirus. Boris Johnson exhorte les Britanniques à rester chez eux. Nous serons à Londres, Agnès, dès le début du journal, après les autres titres.
Un coup d'accélérateur de la campagne de vaccination en France, la barre des 5000 vaccinés a été franchie. La relative bonne santé du secteur immobilier, malgré des prêts de plus en plus difficiles à obtenir. C'est mon apprenti, ma bataille, un boulanger en grève de la faim contre la menace d'expulsion de son élève. Et puis le calendrier difficile à gérer pour les expositions temporaires.
Les invités du 7-9 ce matin à 7h50 avec vous Léa.
Oui, les affaires Elf, Urba, Kerviel, Karachi, Cahuzac, Clearstream. Un homme a été au cœur des plus importantes affaires politico-financières de ces 40 dernières années. Aujourd'hui à la retraite, il écrit ses souvenirs. Mémoire d'un juge trop indépendant aux éditions Talendier, l'emblématique Renaud Van Ruymbeek sera avec nous à 7h50.
Et on se retrouve Léa à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec aujourd'hui le président de la région Hauts-de-France, ancien ministre de la Santé, j'ai nommé Xavier Bertrand. Vos questions, le standard est ouvert et vous attend 01 45 24 7000.
France Inter.
Une nouvelle volte-face de Boris Johnson. Dimanche, le Premier ministre britannique a intimé l'ordre aux parents d'envoyer leurs enfants en classe. Changement de pied hier soir, l'Angleterre se reconfine dans le sillage de l'Écosse et 10 jours après l'Irlande du Nord et le Pays de Galles. Il faut dire que depuis l'apparition du nouveau variant du Covid fin décembre, la situation ne cesse de se détériorer avec 59 000 nouvelles contaminations pour la seule journée d'hier et plus de 75 000 morts. Boris Johnson appelle donc les Britanniques à rester chez eux.
Vous ne pouvez quitter votre domicile que pour certaines raisons autorisées par la loi, pour des achats essentiels, pour travailler si vous ne pouvez vraiment pas le faire de chez vous, pour faire de l'exercice, pour des rendez-vous médicaux, un test Covid par exemple, ou pour échapper à des violences domestiques. Je sais combien c'est difficile, je sais combien vous êtes frustré, je sais que vous en avez plus qu'assez des conseils du gouvernement pour vaincre ce virus. Mais maintenant, plus que jamais, nous devons nous serrer les coudes. Les semaines à venir seront les plus difficiles, mais je crois vraiment que nous entrons dans la dernière phase de la lutte.
Ce troisième confinement débute donc ce matin. Il devrait durer jusqu'à la mi-février. Un confinement aussi strict qu'au printemps dernier, avec notamment la fermeture de tous les établissements scolaires. Une situation compliquée à gérer pour les parents. Reportage à Londres de Marie-Pierre Véraud et Jérémy Gosset.
Emmitouflés dans leur doudoune jaune, Samuel et Noah pédalent dans Hyde Park. Âgés de 6 et 9 ans, ils devraient être en classe. Mais après plusieurs hésitations, Boris Johnson a d'abord annoncé que les écoles de Londres resteraient fermées 2 semaines de plus. Confinement qu'il vient de prolonger hier soir jusqu'à la mi-février, au moins, la faute aux variants du virus. Samuel n'en peut plus, il voudrait bien être avec ses copains. Sa mère, Mimou, oscille entre exaspération et fatalisme.
Je prends juste chaque jour comme il vient. On l'a déjà fait, on doit le refaire. J'ai 4 enfants, donc je dois imprimer des emplois du temps pour tout le monde. Chacun est sur iPad ou Zoom. C'est dur, vraiment dur.
Au nord de Londres, Rachel, elle aussi, s'arrache les cheveux. Cette avocate est maman de 2 petits-enfants et ce qu'elle dénonce surtout, c'est la stratégie illisible du gouvernement.
C'est très chaotique. C'était tout à fait évident qu'il allait falloir fermer les écoles, surtout parce qu'on a tout ouvert à Noël. Et là aussi, on a changé d'avis au dernier moment.
Et ce n'est sans doute pas fini. Personne ici ne croit vraiment Boris Johnson quand il donne la mi-février comme nouvelle date butoir. Londres, Fabien Gosset, Marie-Pierre Véraud, France Inter.
Et les autorités britanniques espèrent beaucoup désormais de la campagne de vaccination. Plus 1 million de personnes déjà vaccinées, 100 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca commandées. Un tournant dans notre combat contre cet horrible virus, s'est félicité hier le ministre britannique de la Santé. Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, en première ligne aussi, pour défendre la stratégie gouvernementale. Désormais, le nombre de personnes vaccinées sera publié tous les jours. La barre des 5000 a été franchi hier. D'ici demain soir, une centaine d'hôpitaux offriront la vaccination à leurs soignants, ainsi qu'aux soignants de ville. Et des centres de vaccination en ville seront installés début février pour les personnes âgées ne résidant pas en EHPAD. L'objectif du gouvernement est d'éviter les erreurs commises lors de la campagne de vaccination contre la grippe H1N1 en novembre 2009. Près de 94 millions de doses commandées et à peine 4 millions de Français vaccinés. Élodie Forêt.
Sur les raisons de l'échec de la campagne H1N1, les avis sont quasi unanimes. Un plan trop rigide, trop centralisé, excluant la médecine de ville. Une erreur en train de se reproduire, s'inquiète l'UDI Jean-Christophe Lagarde. Il fut le président de la commission d'enquête à l'Assemblée sur le sujet.
Il faut à un moment donné arrêter avec des plans qui sont des plans administratifs. Il faut faire confiance à la médecine de ville, permettre aux collectivités locales d'organiser des vaccinations pour que ça se diffuse le plus vite possible dans notre pays.
Même analyse du LR Alain Milon, médecin et rapporteur d'une commission d'enquête, cette fois au Sénat. Il dénonce de faux prétextes. En 2009, le conditionnement du vaccin. Aujourd'hui, sa température de conservation.
On peut très bien imaginer un congélateur spécial par département. Comme après, une fois que le vaccin est sorti du congélateur, il est valable pendant 5 jours et les professionnels de santé peuvent vacciner à tour de bras, ce serait une bonne chose.
Faire appel à ces professionnels proches des Français, meilleur moyen de les rassurer, garantissent ces élus. Que les responsables donnent aussi l'exemple, dit le centriste Hervé Morin. En 2009, il était ministre de la Défense.
Le militaire français n'était pas forcément très chaud pour se faire vacciner. Le chef d'état-major des armées m'avait dit « ce serait bien que vous montriez qu'il n'y a pas de risque ». Je vois encore, après un conseil des ministres, me faire vacciner dans mon bureau.
Aujourd'hui, ni le président ni aucun ministre n'ont encore été vaccinés.
Et Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, qui dénonce une faute gravissime du président, sera l'invité du grand entretien à 8h20 sur Inter.
Il est pour l'instant 7h06. Agnès, l'inquiétude des patrons de bars et de restaurants.
Qui croient de moins en moins à une réouverture le 20 janvier et qui vont plaider leur cause cet après-midi à Bercy en attendant les annonces du gouvernement jeudi. Et c'est également à partir de jeudi que les salariés en télétravail pourront revenir une fois par semaine en entreprise s'ils le souhaitent et avec l'accord de leur employeur. Un secteur a réussi à tirer son épingle du jeu dans ce contexte très tendu, c'est celui de l'immobilier. Avec des taux qui restent historiquement bas, le nombre de transactions s'est maintenu au niveau des années précédentes, selon les agences du réseau Ceinturi, en particulier les maisons au détriment des appartements. Laurent Kramer.
Malgré la crise sanitaire, les Français n'ont pas délaissé l'immobilier. Les prix ont continué leur progression en 2020 pour franchir un nouveau record au mètre carré. Le nombre de transactions a également explosé juste après le premier confinement, rattrapant l'ensemble de l'année, souligne Laurent Vimont, PDG du réseau Century 21.
On a vécu en 2020 une année historique puisque ce marché, il a été quasiment frénétique dès que le marché a été déconfiné. Dès le 17 mai, on a vu des agences faire 10 ventes par jour et on a enregistré des niveaux de vente records, de frénésie d'achat. À la fin de l'année, le bilan, c'est qu'on est quand même à moins 12. Mais sur les mois d'activité où on pouvait exercer, les chiffres ont été absolument incroyables.
L'appel de la campagne ou encore la peur du chômage ont visiblement accéléré les projets des Français sur l'idée qu'il vaut mieux acheter tant que l'on est en situation d'emploi. Les Français anticipent donc d'éventuelles difficultés qui leur fermeraient sur le long terme les portes du crédit.
Quand on m'explique que l'inquiétude liée au chômage empêche les gens d'acheter, c'est faux. Et puis, encore une fois, c'est un réflexe gaulois. Et donc, passer par cette étape de propriété est un élément essentiel pour les Français.
Mais changement notable. En 2020, les ouvriers et les employés avec moins d'apports personnels et des dossiers refusés par les banques ont eu plus de difficultés à devenir propriétaires l'an passé.
Et à quoi faut-il s'attendre pour 2021 ? Au niveau mondial, cette année qui débute pourrait être l'année du rebond économique. Delphine Simon.
L'économie va repartir, mais pas en même temps pour tout le monde. Parmi les premiers à redémarrer, la Chine, en avance dans la gestion du Covid, mais aussi les pays dont l'économie est spécialisée dans l'électronique, explique Julien Marcilly, chef économiste chez Coface.
Le rebond sera sans doute plus rapide pour des filières industrielles, comme l'électronique, comme l'agroalimentaire et bien sûr le secteur pharmaceutique. Les économies qui sont tirées par les services, comme le tourisme, sont amenées à souffrir plus durablement, comme l'Espagne ou comme la Grèce.
Au premier semestre, il faut s'attendre à une reprise en dents de scie, car la part de la population vaccinée ne sera pas suffisante pour échapper aux restrictions. Quant à la dette des États, elle va gonfler de 10 points dans les pays émergents, comme l'Inde, de 20 points dans les États développés. L'impact du Covid va creuser les inégalités.
Les ménages qui ont pu davantage épargner pendant cette crise sont ceux qui relancent la consommation, mais ce sont principalement des ménages à haut revenu. De l'autre côté, vous avez toute une catégorie de ménages à plus bas revenus qui doivent au contraire s'endetter davantage. Cette montée des inégalités, du chômage, la satisfaction vis-à-vis de la gestion de la pandémie, c'est un contexte qui est assez propice à la montée des risques politiques dans le monde.
Selon la Banque mondiale, la crise du Covid a créé 120 millions de nouveaux pauvres, une précarité dont à peine la moitié peut espérer sortir.
Il est 7h10, l'histoire à présent d'un boulanger de Besançon, Agnès, en grève de la faim pour défendre son apprenti.
Un jeune homme qu'il forme depuis un an et demi, mais qui est donc menacé d'expulsion. Arrivé de Guinée mineure, il est aujourd'hui majeur et ne peut pas présenter de carte d'identité en bonne et due forme. Stéphane Ravaclet a donc cessé de s'alimenter. Béatrice Duguay.
Le sourire de l'Aïfodé Traoréiné est aussi doux que timide sur la photo prise dans la boulangerie de Stéphane Ravaclet.
C'est vraiment un super gamin, il parle français mieux que moi. Il a appris très très rapidement. Il devait passer son CAP entre mai et juin de cette année.
Lui, qui a tant de mal à trouver des apprentis, comptait bien emmener le jeune renfort jusqu'au CAP en juin prochain. Mais c'est surtout humainement que le boulanger peine à comprendre la situation.
On ouvre les portes à un gamin et on lui dit « Bah voilà, t'en fais pas, on te protège, tu risques rien ». Les gamins, ils ont le droit de consommer, on leur alloue de l'argent, on leur loue des appartements. Et deux ans après, on leur dit « Bah écoute, non ». Ce beau rêve dans lequel tu étais, il n'existe plus, tu rentres chez toi.
Lai est donc un orphelin guinéen, parti à 16 ans de son pays, passé par la Libye, la Méditerranée sur un canot, débarqué en Italie. Pour la préfecture de Haute-Saône, les documents d'état civil qu'il a fournis ne sont pas authentiques, comme pour beaucoup de mineurs de ce pays. Mais ils proviennent des autorités guinéennes, précise Maître Amandine Dravini, qui défend le jeune homme.
Il a un acte de naissance. Les autorités lui ont remis une carte d'identité consulaire. Et j'espère qu'avec le courrier à l'ambassade et son déplacement à l'ambassade, on arrivera à faire légaliser pour établir qu'il était bien mineur quand il a été confié à l'aide sociale à l'enfance.
Dans le même temps, l'avocate conteste l'expulsion devant le tribunal administratif de Besançon.
Une histoire à retrouver sur franceinter.fr. Enfin, le casse-tête des musées et des expositions temporaires avec les fermetures, réouvertures, refermetures. Sans date annoncée de reprise, les musées doivent s'adapter et revoir leur calendrier. Isabelle Pasquier.
Au musée d'Orsay, Darwin confiné s'impatiente. L'exposition Les origines du monde n'a toujours pas vu ses premiers visiteurs. Dans les musées, il a fallu redessiner le calendrier et surtout jouer la sécurité. Exemple, la directrice du Louvre-Lens a décidé de repousser sa grande expo Picasso, Marie Lavandier.
Il a fallu faire des choix qui étaient des paris. Par exemple, repousser d'une année une grande exposition internationale, Les Louvres de Pablo Picasso, exposition avec des conquêtes de prêts assez compliquées, notamment à l'international. En temps normal, ce sont des œuvres qui sont bloquées des années à l'avance. C'est des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. Mais là, on l'a fait. Et la plupart des prêts ont été possibles, puisque, en vérité, à l'échelle des musées internationaux, presque tout le monde a décalé les calendriers d'une année.
Même scénario au LAM à Villeneuve-d'Ascq avec son expo Paul Klee. Sébastien Delot, son directeur.
L'exposition Paul Klee, nous avons décidé de la reporter au mois de septembre. Nous avons également réduit le nombre de prêteurs pour rendre l'exposition possible, quelles que soient les circonstances, de ne pas multiplier les prêts aux quatre coins de l'Europe.
Et c'est de Russie que la Fondation Vuitton attend les trésors de la collection Morozov. Un pari pour cet expo-événement. Ouverture prévue le 24 février.
Et rappelons, Nicolas, que de nombreux musées proposent des visites virtuelles sur leur collection permanente.
Merci Agnès Soubiran.